Vous écoutez la deuxième saison de What, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Épisode 7, l'électrification du transport de marchandises, une révolution sans bruit et sans émissions. Je m'appelle Margot, je suis journaliste spécialisée dans les questions environnementales. J'aimerais commencer cet épisode par un petit mea culpa. Comme vous, certainement, moi aussi, ça m'arrive de commander des choses sur Internet et de payer une livraison express pour que ça arrive le lendemain. Évidemment, ce tour de force a un prix, celui d'un bilan carbone catastrophique. Pour me livrer mon petit colis, il aura sûrement fallu un avion et surtout un semi-remorque au pot d'échappement bien polluant. En France, le secteur du transport est le principal responsable de nos émissions de gaz à effet de serre. Et en regardant le détail, je me suis aperçue que les poids lourds sont ceux qui émettent le plus, pas l'avion ni le bateau. Donc si l'on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est au camion qu'il va falloir s'intéresser en priorité. Alors aujourd'hui, quelles solutions existent pour limiter leur impact? Faut-il livrer moins loin? Interdire les retours à vide? Ne plus jamais commander sur Internet? La bonne nouvelle, c'est que des leviers d'action, il y en a déjà. Il y en a un qui nourrit beaucoup d'espoir, c'est l'électrification du transport de marchandises. Parce que soyons réalistes, si on compte uniquement sur la responsabilité individuelle du consommateur devant son ordinateur, je crains que ça ne suffise pas. Et puis, il faut prendre en compte le fait qu'une livraison peut être essentielle. Dans certains camions que vous croisez sur l'autoroute, il y a la nourriture de votre supermarché ou les médicaments de votre pharmacie. Alors c'est vital de trouver des solutions pour un transport plus vert. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'électrification présente de sérieux avantages pour l'air qu'on respire, oui, mais pas seulement. Je me suis rendue dans les Hauts-de-Seine à Nanterre, où l'entreprise Elis Paris West fait figure d'exemple en la matière. Cette blanchisserie fournit du linge propre à près de 200 hôtels et restaurants en Île-de-France. Et aujourd'hui, 75% de leurs camions de livraison roulent à l'électrique. Et ça se voit tout de suite en arrivant, ou plutôt ça s'entend. Enfin, ça s'entend plus justement. Bref, vous avez compris. Sur le quai où les employés déchargent le linge sale, le vacarme des moteurs thermiques a laissé place au chant des oiseaux. C'est là que j'ai retrouvé Philippe, un chauffeur-livreur un peu fatigué après sa tournée nocturne.
Alors pour reconnaître les poids lourds électriques, 100% électriques et les thermiques, les panneaux blancs sur les bas de caisse, c'est les protections des batteries. Qu'il n'y a pas sur le thermique.
Bonjour, ça va?
Ça, ça y est.
Il a le mercure sur Fredne.
Évidemment, j'ai demandé à Philippe de faire un tour dans son camion tout neuf pour voir ce que ça change concrètement dans son quotidien de rouler dans un poids lourd électrique.
Alors, 49% de batterie d'autonomie. Je mets la clé. On entend le bip. On tourne la clé. La flèche, elle est sur le zéro. C'est prêt à démarrer. Marche arrière, et c'est parti. Pour ceux qui connaissent les voitures électriques, c'est comme sur une voiture électrique. Il n'y a que deux vitesses.
Et là, on a beau avoir démarré, on a 16 tonnes qui bougent quasiment sans un bruit, en tout cas pas avant d'avoir dépassé à peu près 70 km/h, et c'est impressionnant. Pour Philippe, c'est beaucoup moins fatigant.
C'est un confort pour les oreilles. Je peux écouter ma musique tranquille sans avoir le bruit du moteur. En plus, je ne suis pas assis dessus, donc moins de vibrations aussi... Puis c'est aussi appréciable pour les autres, même la nuit dans Paris ou dans pas mal de petits rues qu'on passe, bah avec l'électrique on passe quasiment inaperçu, ne serait-ce que pour les clients des hôtels. Des fois on se gare même devant les entrées principales et avec l'électrique bon, on n'entend rien. Ça a une certaine puissance au démarrage, personnellement c'est sympa, c'est bien. Moins ballotté quand il y a des imperfections au sol. On prend vraiment plus conscience qu'on participe un petit peu. Parce que zéro émission, même si c'est un poids lourd, on se dit c'est cool quoi. Voilà.
Ok, niveau bruit, c'est imbattable. La tournée n'est pas non plus rallongée puisqu'on peut rouler à la même vitesse. Bonne nouvelle puisque cette blanchisserie industrielle a environ 400 tonnes de linge à livrer par semaine. Jusqu'ici, c'est donc un sans faute pour l'électrique. Venons-en à la question sensible, la recharge. Avec 230 km d'autonomie et des tournées quotidiennes de 70 km par camion, si mes calculs sont bons, il faudrait s'alimenter tous les 3 jours. C'est pas trop contraignant ça ? Après notre petit tour, Philippe m'a montré la manœuvre.
Visuellement, toutes les bornes, elles sont en face de tous les camions électriques. Ils ont tous une borne. Et donc, comme vous voyez, il y en a, ils sont en train de charger. On met le câble à la borne, au camion. Montez, 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 vous allez voir. Temps restant, il a 47%. Pour revenir à 100%, il indique 6h17. Pour faire les 53% qui restent. Donc une charge complète, s'il serait à zéro, faut compter 12 heures. Mais nous, on laisse jamais à zéro, donc c'est risqué quand même. C'est un changement, hein, passer à l'électrique. Mais on s'adapte très vite et revenir en thermique, c'est pas top. C'est une punition. Le bruit change tout, au fait.
Dans cette blanchisserie Hélice, l'électrification de la flotte s'est imposée à cause des restrictions poids lourds de plus en plus strictes dans la capitale. Mais aujourd'hui, personne ne regrette ce choix et l'objectif, c'est d'atteindre 100% de véhicules électriques dès que le budget le permettra. Jérôme Bischoff est le chef de service logistique.
Aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction sur tous les points, et technique et environnemental. Donc, si on peut œuvrer pour diminuer ses émissions de carbone, c'est bien sûr que c'est réjouissant.
Comment ça marche ? Si on y regarde de plus près, il existe deux façons d'alimenter un moteur électrique de camion. Une méthode directe et une méthode indirecte. Je vous explique. Quand on installe des batteries dans un poids lourd comme le fait la blanchisserie Hélice, on parle alors d'électrification directe. L'électrification directe passe donc tout simplement par la multiplication de ces véhicules qui roulent avec une batterie rechargeable. En revanche, quand on utilise de l'hydrogène, c'est une électrification indirecte. En gros, on utilise de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène qu'on va ensuite stocker dans le véhicule. Ensuite, une pile à combustible va venir retransformer cet hydrogène en électricité. Donc, le moteur est électrique, oui, mais cette électricité est produite dans le véhicule à l'aide de la pile combustible. C'est donc une manière indirecte de produire de l'électricité, mais cette méthode apparaît aussi comme une solution efficace pour décarboner la mobilité lourde. De toute façon, que les choses soient claires, ça reste mieux qu'un semi-remorque qui brûle du gasoil. Peu importe la méthode, électrifier tout un réseau de transport, ça prend du temps et de l'argent. Si on en croit l'entreprise Hélice, l'investissement en vaut largement la peine. Des salariés plus heureux, ce sont des livraisons plus efficaces et une productivité boostée. Mais pour l'instant, les batteries mises sur le marché n'ont pas encore assez d'autonomie pour faire des longs trajets. Je me demande donc si les véhicules électriques restent encore anecdotiques dans la mobilité lourde. Bon, je crois qu'il est temps de faire un point d'étape et voir quelles sont les perspectives pour l'avenir. Pour ça, je suis allée m'entretenir avec Olivier Dubois, le directeur de la mobilité électrique à EDF.
On a quelques centaines de camions électriques qui sont déjà sur nos routes en France. Concrètement, c'est de l'ordre de 200 camions qui ont été vendus l'année dernière et c'est plutôt un millier de camions qui seront vendus cette année, avec des autonomies qui également sont déjà importantes. Il y a des camions 16 tonnes qui roulent, qui font 200-300 km. Les constructeurs de camions annoncent également des camions qui feront 500 km dès l'année prochaine, donc qui correspondent à des usages, et même des camions 40 tonnes qui vont commencer à rouler sur nos routes l'année prochaine.
500 km d'autonomie, ce serait déjà une belle avancée, parce que selon les chiffres d'Eurostat, quasiment la moitié des marchandises transportées en Europe parcourent moins de 300 km. Bon, maintenant, quelles sont les autres priorités pour aller encore plus loin quand on veut décarboner un secteur comme celui-ci ?
Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Ce qui semble s'imposer clairement pour les bus ou les camions, c'est l'électrification directe par batterie. Encore une fois, là, le secteur bénéficie des avancées importantes qui ont été réalisées pour les véhicules électriques. Donc, beaucoup d'investissements dans les batteries des véhicules électriques. Ce seront les mêmes batteries pour les camions. Pour les plus longues distances, on imagine des solutions de type hydrogène. Donc, on aura des camions pour les longues distances qui pourront faire entre 500 et 1000 km d'autonomie, mais qui nécessitent des solutions de ravitaillement en route. On parle également de gaz, de biogaz, de carburants alternatifs, qui peuvent être des carburants comme on connaît, dans lesquels on additionne des éléments un peu plus bio. On peut également imaginer des carburants nouveaux, synthétisés aussi d'ailleurs avec de l'électricité. Donc tout ça est assez prospectif. La question, c'est jusqu'où vont aller les batteries pour les camions, en fait. Aujourd'hui, on est, je vous disais, à autour de 500 km d'autonomie annoncée par les constructeurs dès l'année prochaine. Tesla annonce même un camion à 800 km.
Pousser l'autonomie le plus loin possible, c'est important. Mais il reste un autre grand défi, le déploiement des bornes de recharge. Les camions sont disponibles et les coûts de l'électrique sont de plus en plus attractifs, même pour les gros tonnages. Mais ce qui freine encore les entreprises, c'est l'assurance de pouvoir se charger sur des bornes puissantes pour ne pas y passer la journée et sans bouleverser toute l'organisation.
Il faudra des bornes pour charger les camions. Alors, la plupart des usages, la plupart des premiers camions électriques qui vont rouler, ce sont des camions qui font des petites distances ou des distances régionales, donc moins de 200, moins de 300 km, et qui reviennent dans leur parking au dépôt pendant la nuit. Et donc, l'essentiel de la charge, 90% là, des camions dont je parle, vont revenir au dépôt de l'entreprise le soir et donc se chargeront la nuit comme nos véhicules électriques aujourd'hui. Donc, ces bornes de recharge, elles sont quasiment les mêmes que celles qu'on installe pour les véhicules utilitaires légers. Et puis, il y aura des bornes de charge rapide pour les camions qui feront de l'itinérance, qui feront des distances plus importantes. Donc là, on parle de bornes comme on a déjà sur les véhicules électriques, des bornes à 350 kW, donc, qui sont les plus rapides. Et puis demain, on parle d'un standard 1 MW, donc des camions qui pourront se charger jusqu'à 1 MW de puissance.
Même si les avantages paraissent évidents, j'imagine que tout ne va pas se faire du jour au lendemain. J'ai demandé à Olivier Dubois quel était l'objectif, décarboner totalement le transport de marchandises. Est-ce que c'est réaliste, ça?
La cible, c'est moins 90% en 2040. Donc, ce n'est pas complètement décarboné, mais c'est quand même assez proche, hein, parce que c'est quand même des transports, des camions qui roulent quand même 10, 15 ou 20 ans. Donc, c'est bien maintenant que ça se passe. Donc, 2040, on a des camions qu'on imagine électriques en grande masse, parce qu'on aura bénéficié des progrès qui ont été faits sur les véhicules électriques. D'ailleurs, les constructeurs de camions annoncent que la moitié de leurs ventes dès 2030 seront des camions électriques. Il y en a à peu près 600 000 camions qui roulent en France. Et on imagine qu'à horizon 2050, à peu près les deux tiers de ces camions, à minimum, seront électriques.
Deux tiers de camions électriques en France à l'horizon 2050, ça me paraît dingue. Ça va en faire de la pollution évitée. Cela dit, il faut quand même que je vous précise que l'empreinte carbone totale d'un camion électrique dépend de la manière dont l'électricité est produite. Si l'électricité provient de renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire ou hydraulique, les émissions peuvent être quasi nulles. Avec le nucléaire aussi, on peut produire une énergie décarbonée. Mais si l'électricité est générée à partir de combustibles fossiles, alors il y aura quand même des émissions de carbone, bien que le camion électrique n'émette rien sur la route. Il ne faut pas oublier les émissions liées à la fabrication des batteries aussi, mais qu'on soit clair, ça reste moins de pollution qu'un camion thermique. Il est un peu tôt pour se réjouir, restons concentrés, il y a encore du pain sur la planche et pas uniquement du côté de l'électrification. J'avais envie d'avoir l'avis de Ruben Fischer, qui est chef de projet spécialisé dans le fret pour l'association Shift Project. C'est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Je lui ai envoyé une note vocale pour lui demander ce qu'il reste à changer, selon lui, pour un transport de marchandises plus décarboné. Et il m'a répondu entre deux réunions.
Alors c'est vrai que le besoin de marchandises, c'est pas comme le transport, par exemple, pour aller en vacances. Il y a quand même un côté essentiel. Livrer des médicaments ou de l'alimentaire, on en a tous besoin. Donc on part du principe que, en quelque sorte, c'est comme un sujet régalien. Et à ce titre-là, il y a une recherche d'efficacité maximum. Par exemple, l'application d'une courbe de décarbonation ou une courbe de baisse de la consommation énergétique pour accomplir les livraisons qui sont réellement nécessaires. Il peut y avoir beaucoup de modifications qui soient faites en amont, la relocalisation ou la réindustrialisation qui fait que, dans une certaine mesure, ce qui est produit et transporté sera transporté sur des distances inférieures à celles qui ont lieu aujourd'hui. Ça peut passer aussi par ce qu'on appelle le network design, c'est-à-dire la conception d'un réseau. Et ben, à l'avenir, lorsqu'on conçoit un réseau, lorsqu'on ouvre un entrepôt, il serait de bon augure de se poser la question du transport et du mode de transport le plus décarboné qui soit, et donc potentiellement avoir des réseaux et des entrepôts qui soient non pas au plus proche de l'embranchement ou autoroutier, mais qui soient sur des pôles multimodaux, c'est-à-dire qu'ils puissent faire appel à des moyens de transport fluviaux ou ferroviaires. Et puis, il y a une philosophie qui est amenée à changer, qui dit en gros, c'est fini la période de juste à temps, même s'il y a des facteurs financiers, la dépréciation, l'amortissement, etc., qui est lié au stock. Il faut augmenter les quantités qui sont en stock sur les différents points pour justement réduire la cadence, la fréquence et la demande de transport pour les livraisons.
Partons du principe que nous livrons moins loin, moins souvent et moins de quantité. Je me demande à quoi pourrait ressembler le parcours d'une marchandise en 2050 dans le monde idéal de Ruben. Ça y est, je suis devant mon ordinateur futuriste avec un écran tactile ultra sophistiqué et je veux suivre mon colis. Alors comment arrive-t-il sur mon paillasson ?
Je suis en 2050 et la marchandise est produite ou assemblée, tant que faire se peut, localement ou régionalement et au moins dans mon pays. Et avant même d'être assemblée ou produite, la marchandise doit passer le filtre de l'utilité. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser de l'énergie, du temps, des ressources pour produire ou assembler cette chose ? Si oui, alors en effet, elle est assemblée ou produite, et ensuite elle est acheminée. Mais par contre, elle n'est pas acheminée le jour même, ou dans les 24 heures. Il y a en effet un travail qui est fait sur l'importance de livrer lentement, l'importance de ce qu'on peut appeler la slow logistics, ou la logistique lente. Les cadences sont réduites, et la marchandise arrive, peut-être par train ou par fluvial, si elle arrive de relativement loin, et sinon elle arrive par véhicule électrique, que ce soit un poids lourd qui roule sur des routes qui sont elles-mêmes électrifiées, permettant la recharge dynamique, ou par un véhicule plus léger qui est électrifié, comme on en voyait déjà à l'époque des années 2020. Puis la marchandise arrive dans un centre de mutualisation pour être regroupée avec les autres marchandises du même type qui seront prévues d'être livrées sur la même zone par un seul et même opérateur. Peut-être le lendemain, peut-être dans 2 ou 3 jours, ça va dépendre des jours de livraison qui sont autorisés sur cette zone-là. Cet opérateur qui a gagné un appel d'offres grâce notamment à plein de critères qu'on pourrait appeler des critères verts, mais qui sont aussi des critères d'efficacité en termes d'utilisation minimum d'énergie et d'émissions minimum de gaz à effet de serre. Et puis pour des livraisons en zone urbaine dense, alors c'est en cyclo logistique, voire même à pied, que je fais mes derniers mètres ou kilomètres.
Vous venez d'écouter le 7e épisode de la saison 2 de Watt Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.